Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Le monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 27 octobre 2022. Au Mali, l'État islamique a massacré des centaines de villageois dans le nord-est, selon Human Rights Watch. Après les manifestations sanglantes au Tchad, les organisations de droits de l'homme exigent des enquêtes.
Pour nous, en tant que barreaux, nous estimons également que ce soit une enquête indépendante et transparente. Il faut que ce soit une commission d'enquête indépendante également.
Réaction de Maître Gérandi Laguerre Dionro, bâtonnier de l'ordre des avocats du Tchad, dans la partie magazine. Le gouvernement du nouveau président kenyan William Ruto a prêté serment aujourd'hui, 2 mois après un scrutin présidentiel. Les forces de sécurité iraniennes ont ouvert le feu et tué un homme au cours d'une manifestation ce jeudi dans l'ouest du pays. Le Liban et Israël ont conclu un accord sur leurs frontières maritimes. À suivre également dans cette session d'information, la Minute Éco, l'Égypte reçoit un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international. Et les sports, le nouveau pays hôte de la CAN de football 2025 sera connu le 10 février 2023. Bonsoir, bienvenue, on commence par le journal. La justice guinéenne a annoncé l'interpellation d'un gendarme filmé en train de faire feu lors de manifestations récentes contre la junte au pouvoir au cours desquelles plusieurs civils ont été tués. Le procureur général de Conakry, Yamoussa Konté, a fait part dans un communiqué publié hier soir de l'interpellation du gendarme en question, Ibrahim Baldé. Il n'en dit pas plus sur son sort. La justice guinéenne a également annoncé des poursuites contre les organisateurs et les participants aux manifestations. Dans le nord-est du Mali, des groupes armés affiliés à l'organisation État islamique ont massacré des centaines de villageois depuis le début de l'année. Alerte Human Rights Watch, l'ONG affirme que les autorités n'en font pas assez pour protéger les civils. Claire Morin-Gibou.
Les djihadistes ont mené depuis mars des attaques terrifiantes et apparemment coordonnées contre des villages, massacrant des civils, pillant des maisons et détruisant des biens dans les régions de Menaka et Gao, selon le rapport de Human Rights Watch. Des dizaines de milliers de villageois ont été poussés à fuir ailleurs au Mali ou vers le Niger voisin après avoir perdu leur bétail et tous leurs biens. Ces exactions ont en grande partie visé les Daoussaak, une tribu touareg selon l'ONG qui souligne aussi que de vastes pans de territoire sont passés sous la coupe des groupes affiliés à l'organisation État islamique au Grand Sahara. Dans un communiqué, Human Rights Watch appelle le gouvernement malien à en faire davantage pour protéger les villageois. Ces propos contredisent ceux des militaires qui répètent avoir inversé la tendance sécuritaire et avoir mis en débandade les groupes djihadistes. Hier, la sous-secrétaire d'État américaine, Victoria Nuland, de retour du Sahel, a déclaré que la sécurité s'était considérablement détériorée au Mali depuis que la junte a fait appel, selon les États-Unis et leurs alliés, aux mercenaires de la société russe Wagner en 2021. Pour Human Rights Watch, cette flambée de violence coïncide avec le retrait du Mali de la force anti-djihadiste française Barkhane, poussée au départ par la junte.
Contactée par la VOA, la Direction des Affaires publiques des armées du Mali a décliné la demande d'interview de VOA Afrique. Dans l'est de la RDC, de violents combats ont opposé ce jeudi les forces armées congolaises aux rebelles du M23 près de la route nationale 2, un axe routier stratégique reliant Goma, chef-lieu du Nord Kivu, aux autres villes de la province. La situation est tendue ici chez nous. La route est coupée, a confirmé Samson Rukira, vice-président de la société civile du territoire de Rutshuru, le village de Ntamugenga, environ 4 km à l'est de la route nationale 2, est contrôlé par le M23 depuis dimanche. Depuis la reprise des combats le 20 octobre, au moins 4 civils ont été tués et 40 autres blessés, selon un bilan diffusé dimanche par l'armée, des habitants faisant de leur côté état d'au moins 10 morts. La police a tiré des grenades lacrymogènes sur des milliers de Soudanais manifestants aujourd'hui à Khartoum contre le pouvoir militaire installé par un putsch il y a un an et en mémoire des victimes de la répression. Les grenades ont fusé à Khartoum Nord, la banlieue nord-est de la capitale soudanaise où des milliers de manifestants avaient monté dès le matin des barricades, le mode opératoire des anti-putsch depuis que le chef de l'armée, le général Abdel Fattah al-Burhan, a interrompu la transition démocratique dans le pays le 25 octobre 2021. Au Kenya, le gouvernement du nouveau président William Ruto a prêté serment aujourd'hui. L'équipe gouvernementale de 22 membres entre en fonction 2 mois après un scrutin présidentiel serré. Les détails avec Nani Talani.
La nouvelle équipe gouvernementale aura notamment pour tâche de s'attaquer à la hausse du coût de la vie dans le pays, un des principaux thèmes de campagne de M. Ruto. Vous aurez mon soutien parce que vous n'avez pas d'autres options que de réussir. L'échec n'est pas une option. Nous avons un pays dont il faut nous occuper. Nous n'avons rien à cacher. Nous voulons servir les Kenyans, a déclaré le chef de l'État devant ses nouveaux ministres à Nairobi. Mais William Ruto n'a pas respecté sa promesse de campagne d'instaurer la parité dans son cabinet. Seules 7 femmes figurent parmi les 22 membres. Moussalia Mudavadi, 62 ans, ancien vice-président qui a rompu avec Raila Odinga, l'opposant défait par M. Ruto, assumera la charge nouvellement créée de premier secrétaire du cabinet. Il répondra directement au chef de l'État et au vice-président. Kithure Kindiki, l'un des avocats qui ont défendu la victoire de M. Ruto, contestée par M. Odinga devant la Cour suprême, prend la tête du ministère de l'Intérieur. Pour sa part, l'ancien gouverneur de la Banque centrale du Kenya, Njuguna Ndung'u, prend le portefeuille des finances. Les ministres ont été approuvés mercredi par le Parlement, dominé par les partisans de William Ruto.
Gouvernement éthiopien et rebelles de la région du Tigré, qui s'affrontent depuis près de 2 ans, sont toujours en conclave et ce jusqu'à dimanche. Ce sont les premiers pourparlers de paix officielle dont l'issue demeure très incertaine après le regain de violence observé depuis fin août.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Iran, les forces de sécurité ont abattu aujourd'hui un jeune homme au cours d'une manifestation à Mahabad, dans l'ouest du pays, contre le décès de Mahsa Amini après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs. Le point avec Eric Manirakiza.
Selon le groupe de défense des droits humains Engao, les forces de sécurité ont ouvert le feu sur la foule dans le quartier de Gomrok à Mahabad, dans la province de l'Azerbaïdjan occidental, après qu'un commissariat de police de la ville a été encerclé. Cette ONG basée en Norvège indique que le jeune Kurde tué a été touché au front. « Nous ne devrions pas pleurer nos jeunes, nous devrions les venger », criaient les manifestants, selon l'ONG. Ces incidents ont éclaté après l'enterrement d'un manifestant de 35 ans tué mercredi soir, au moment où la foule se dirigeait vers les bureaux du gouverneur. Hier mercredi, des milliers de personnes s'étaient rassemblées autour de la tombe de Mahsa Amini dans sa ville d'origine de la province du Kurdistan pour un hommage, 40 jours après sa mort. La jeune Kurde iranienne, âgée de 22 ans, est morte le 16 septembre, 3 jours après son arrestation à Téhéran par la police des mœurs. Celle-ci lui reprochait d'avoir enfreint le code vestimentaire strict de la République islamique qui impose le port du voile pour les femmes dans l'espace public. Sa mort a déclenché une vague de contestation d'une ampleur sans précédent depuis 3 ans qui se poursuit à travers l'Iran.
Le Liban et Israël, pays voisins officiellement en état de guerre, ont conclu ce jeudi un accord délimitant leurs frontières maritimes. Cet accord intervient après des mois de négociations ardues sous l'égide des États-Unis. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
L'accord assure la répartition des gisements gaziers offshore en Méditerranée orientale. Il précise que le champ offshore de Karish se situe entièrement dans les eaux israéliennes. Le Liban, pour sa part, aura tous les droits d'exploration et d'exploitation du champ de canard, dont une partie se situe dans les eaux territoriales d'Israël. Mais Israël sera rémunéré par la firme exploitant canard pour ses droits sur d'éventuels gisements, selon le texte. Le président Joe Biden a félicité Israël et le Liban pour la conclusion officielle de leur accord visant à résoudre leurs litiges frontaliers maritimes de longue date. Selon la Maison-Blanche, les deux parties ont soumis les documents finaux aux Nations Unies en présence des États-Unis. Le premier ministre israélien Yair Lapid a affirmé que cet accord constitue une reconnaissance de fait de l'État hébreu par Beyrouth. Le président libanais Michel Aoun, allié du Hezbollah pro-iranien, a rétorqué qu'il s'agit d'un accord purement technique, sans aucune dimension politique.
Et puis, le président Joe Biden a salué la force motrice de l'économie américaine qui a renoué avec la croissance au troisième trimestre pour la première fois cette année. Ce rebond offre un répit temporaire au président américain juste avant les élections de mi-mandat qui pourraient le priver de sa majorité démocrate au Congrès. L'inflation et les craintes de récession dans les mois à venir ont mis à mal l'embellie dont bénéficiait jusqu'à il y a peu son camp dans les sondages. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la minute éco avec Nani Talani.
L'Égypte reçoit un prêt de 3 milliards de dollars du Fonds monétaire international, 1 milliard d'euros d'aide d'un fonds dédié par le FMI aux pays en développement et 5 milliards de dollars d'organisations internationales et régionales qui n'ont pas été identifiées, indique le Premier ministre Mostafa Al-Madbouli. Le Mozambique prévoit d'expédier début novembre ses premières exportations de gaz naturel liquéfié vers l'Europe depuis l'usine flottante Coral Sud exploitée par Eni. Les nouvelles cargaisons contribueront à transformer l'économie mozambicaine et à atténuer un marché mondial du gaz naturel liquéfié tendu et les pénuries de gaz en Europe. La production annuelle de gaz de Coral Sud est estimée à 3,4 millions de tonnes. Terminons par les industries créatives africaines qui enregistrent une croissance rapide grâce à la popularité grandissante à l'échelle mondiale de la musique, des films et de la mode du continent, note la Banque africaine de développement. Les services créatifs sont passés de 487 millions à 1,1 milliard de dollars entre 2010 et 2020.
Place maintenant au sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Jean-Roger, bonsoir à tous.
Le nouveau pays hôte de la CAN 2025 sera connu le 10 février 2023.
Oui, la CAF dit avoir envoyé un courrier à toutes ses associations membres expliquant que les pays intéressés par l'accueil de la compétition en 2025 ont jusqu'au 11 novembre pour remplir et lui adresser un formulaire de déclaration d'intérêt. Les documents justificatifs des moyens d'accueil de la CAN 2025 doivent être envoyés à la CAF au plus tard le 16 décembre. Entre le 5 et le 25 janvier, des visites d'inspection sont prévues dans les pays qui auront déposé leur candidature avant le choix du ou des pays hôtes qui se fera à l'issue de la réunion du comité exécutif le 10 février. La CAF dit encourager la co-organisation et pour rappel, la CAF a retiré l'organisation de la CAN 2025 à la Guinée pour cause de retard dans les travaux.
Ligue des champions hier en Europe.
En difficulté cette saison, Liverpool s'est épargné quelques sueurs froides en allant gagner avec autorité 3-0, dont un but de l'Égyptien Mohamed Salah sur le terrain de l'Ajax Amsterdam. Les Reds sont qualifiés pour les huitièmes de finale pour la sixième année consécutive. Naples a encore impressionné contre les Rangers de Glasgow, 3-0. L'Atlético Madrid a pu se mordre les doigts après sa rencontre contre le Bayern Leverkusen, 2-2. La Catalogne espérait un miracle, il n'a pas eu lieu. Le Bayern Munich a battu le Barça 3-0 avec des buts de Sadio Mané et Éric-Maxime Choupo-Moting. Conséquence, la victoire de l'Inter Milan devant Plzeň 4-0 fige la troisième place des Catalans reversée en Ligue Europa. Francfort s'est de son côté relancé en dominant l'OM 2-1.
Ici en NBA, Utah repart de l'avant, les Lakers toujours en panne sèche.
Stoppé lundi à Houston, le Utah Jazz est reparti de l'avant en battant les Rockets 109-101. Les Los Angeles Lakers restent en panne sèche, battus par Denver 110-99. Les deux stars des Lakers, champions NBA en 2020, LeBron James et Anthony Davis n'ont inscrit que 19 et 22 points. Milwaukee va beaucoup mieux, porté par Gianni Antetokounmpo, des grands soirs, 43 points. Les Bucks ont dominé les Brooklyn Nets 110-99. Les Bucks demeurent la seule équipe de la Ligue encore invaincue cette saison après la défaite de Portland qui a chuté à domicile face au Miami Heat 119-98 à New York. Les Knicks ont battu Charlotte 134-131 après prolongation.
NBA toujours, le président des Toronto Raptors a été mis à l'amende par la NBA.
Masai Ujiri a été condamné à une amende de 35 000 dollars par la NBA pour s'être approché de la table des marqueurs et avoir tenu des propos inappropriés envers un officiel du match. L'incident s'est produit lors de la défaite 112-109 de Toronto contre le Miami Heat samedi dernier. Masai Ujiri, né en Angleterre de parents nigériens, est devenu président des Toronto Raptors en 2016. Il a contribué au premier titre des Raptors en 2019. Les Raptors sont à la recherche d'une 9e qualification pour les playoffs en 10 saisons.
Page de sport VO Afrique, signé Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Dion de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Tchad, le parquet a ouvert une enquête suite aux manifestations de l'opposition du 20 octobre, violemment réprimées, qui se sont soldées par au moins une cinquantaine de morts, des dizaines de blessés et des centaines d'arrestations. Les Nations Unies, l'Union africaine et des organisations de défense des droits de l'homme appellent les autorités tchadiennes à une enquête indépendante, impartiale et efficace. Pour en parler, Nani Talani a joint Maître Gérandi Laguerre Dionro, bâtonnier de l'ordre tchadien des avocats depuis Dakar au Sénégal, où il assiste à une conférence.
Alors, pas beaucoup de détails sur cette enquête ouverte par le procureur. En fait, ils ont parlé d'une instruction qui va être ouverte, tantôt une enquête, mais dans tous les cas, il n'y a pas tellement de détails de ce que moi j'ai suivi personnellement. Le garde des Sceaux, parce que les magistrats sont en cessation d'activité depuis quelques mois, dont la justice est complètement en arrêt. Et donc, il a été demandé que les juges d'instruction soient de ces différentes villes soient remis au travail pour permettre d'ouvrir des instructions suite à ces manifestations. Alors, personnellement, je n'ai pas d'autres détails sur cette enquête-là.
Mais est-ce que l'enquête pourra être indépendante et impartiale, comme le demandent l'ONU, l'Union africaine et les organisations de défense des droits humains?
Alors là, c'est la bonne question, parce que pour nous, en tant que barreaux, nous estimons également que pour que ce soit une enquête indépendante et transparente, il faut que ce soit une commission d'enquête indépendante également. Donc, eu égard à la gravité de la situation, c'est plutôt indiqué de mettre en place une commission d'enquête indépendante pour une enquête véritablement indépendante et transparente. Parce que imaginez déjà la déclaration de M. le procureur de la République, qui est déjà très mal parti. Il s'est lancé dans une qualification des faits, lors de son point de presse, dans une qualification des faits infractionnels. Il parle même d'insurrection. Vous voyez? Donc, déjà à partir de là, nous voyons un peu que ce qui va se passer ne sera pas une enquête indépendante. Donc, ce serait plus indiqué qu'une commission indépendante soit mise en place pour mener cette enquête-là. Logiquement, une instruction qui doit être ouverte, naturellement, une instruction doit être à charge et à décharge. Et nous plaidons véritablement pour qu'il y ait la mise en place d'une commission indépendante. Parce que dans cette affaire, vous voyez toutes les accusations, vous voyez des gens qui ont été tués. Vous voyez l'implication des forces de défense et de sécurité. Et tout ça, donc, il serait difficile, dans ces conditions-là, que l'enquête soit véritablement indépendante. Mais si cette enquête est conduite sous la houlette du parquet uniquement ou encore avec le gouvernement uniquement, ce serait plus indiqué qu'une commission d'enquête indépendante.
Et quelles sont les démarches que vous menez pour qu'il y ait cette commission indépendante que vous voulez?
Voilà, alors ça c'est un peu également ce que nous au niveau du barreau nous essayons de faire. Déjà nous avec d'autres ordres judiciaires, notamment les huissiers et les greffiers et les notaires, nous nous sommes retrouvés pour mettre en place une équipe de veille pour permettre de recueillir des informations, notamment les preuves, écouter nous également des citoyens qui peuvent nous fournir des informations, et nous avons nos techniques nous également pour vérifier toutes ces informations, mais véritablement il faut que nous insistions pour que le gouvernement mette en place une commission d'enquête indépendante pour que toute la lumière soit faite de part et d'autre sur la situation qui a conduit à beaucoup de morts d'hommes, des blessés, des disparitions, des violations graves.
C'était Maître Gérandi Laguerre Dionro, bâtonnier de l'ordre des avocats au Tchad.
VOA Afrique, Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Avant-projet de la nouvelle constitution malienne, plusieurs points font l'objet de vifs débats entre les citoyens. Mais ces derniers temps, c'est le point relatif à la transformation de certaines langues nationales en langues officielles qui divise l'opinion entre les pros et les anti. Notre correspondant a tendu son micro aux citoyens et aux experts. Reportage de Mohamed Danyoko à Bamako.
L'article 31 de l'avant-projet de la Constitution stipule que les langues nationales ont vocation à devenir des langues officielles. Une disposition qui suscite depuis quelques jours de vives discussions, notamment sur la toile. Pour certains, cette disposition qui participe à la valorisation de nos langues nationales est à appliquer. Badou Koba, journaliste.
Nous pouvons associer le français, par exemple, au Bambara, qui est une langue qui est très bien parlée au Mali et dans la sous-région. Il y va du commentaire de tout un chacun. Et je pense que c'est tout autour d'un consensus. Donc si on arrive à trouver un compromis, le problème de langue ne doit pas se poser en principe.
Pour d'autres, il ne s'agirait que d'un projet dans le temps, car dans l'immédiat, aucune des 14 langues nationales n'est en mesure de devenir une langue officielle de travail. Fousséni Ouattara, citoyen.
Ceux qui pensent que tout de suite, dans l'immédiat, on peut prendre une langue nationale comme une langue officielle, et qu'ils sachent que dans l'immédiat, ce n'est pas possible, parce que ça demande un long travail.
Docteur en linguistique et professeur à l'École normale supérieure de Bamako, Ibrahim Diawara, soutient que les langues nationales ne sont pas au point pour devenir des langues officielles.
Mais de cette date à nos jours, alors est-ce qu'on peut dire que nos langues là sont prêtes pour substituer au français? Moi je ne pense pas, Et je crois que c'est bien de vouloir que nos langues soient utilisées comme les français. Mais nos langues ne sont pas des langues de travail aujourd'hui. Nous devons réfléchir et mettre à l'esprit au devant et au lieu de mettre le cœur.
Choisir entre les 14 langues nationales, une ou deux qui seront officielles, risque de créer plus de problèmes. Ibrahim Touré, professeur du supérieur.
Nous ne sommes pas un royaume bambara. Bon, je ne dis pas que le français est plus légitime, mais le bambara n'est pas plus légitime que le français pour le sonore que moi je suis.
A noter que depuis 1962, le tout nouvel État malien avait déjà émis cette volonté de rendre officielles des langues nationales. Mohamed Danyoko pour VOA Afrique, Bamako.
VOA Afrique, 24h sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Ici aux États-Unis, le président Joe Biden et le président israélien Isaac Herzog se sont rencontrés hier à la Maison-Blanche. Les deux chefs d'État ont discuté de la menace irakienne et notamment du soutien de Téhéran à l'invasion russe de l'Ukraine. Israël a refusé la demande de Kiev de fournir des systèmes de défense aérienne pour les protéger des drones fournis par l'Iran ciblant les Ukrainiens. Un sujet de notre correspondante à la Maison-Blanche, Patsy Widaskouara, récit Claire Morin-Gibou.
Le président américain Joe Biden et son homologue israélien Isaac Herzog ont discuté de plusieurs problèmes de sécurité lors de leur réunion et notamment de la menace posée par l'Iran.
Je pourrais le répéter 5000 fois au cours de ma carrière. L'engagement des États-Unis envers Israël est à toute preuve basé sur nos principes, nos idées, nos valeurs.
Pour le président israélien Herzog, la menace iranienne va au-delà d'Israël.
On se dirige vers l'utilisation d'armes nucléaires et d'armes létales qui tuent des citoyens innocents en Ukraine.
Des responsables ukrainiens et occidentaux ont confirmé que la Russie avait mené des frappes avec des drones d'attaque iraniens sur toute l'Ukraine. Kiev a demandé à Israël de fournir des systèmes de défense aérienne tels que le dôme de fer qui pourrait contrer ces frappes bien qu'Israël ait refusé. Joe Biden ne fait pas pression sur le président Herzog pour qu'il change la position d'Israël, a déclaré à VOA le conseiller en communication stratégique du Conseil de sécurité nationale, John Kirby.
Ils ont parlé aujourd'hui de l'Ukraine, bien sûr. Nous discutons avec des pays du monde entier de ce que nous pouvons faire collectivement pour soutenir l'Ukraine et certainement de ce qu'ils sont prêts à faire pour soutenir l'Ukraine, mais cela doit être leur décision.
Israël a condamné l'invasion russe, mais a jusqu'à présent limité son aide à l'Ukraine à l'aide humanitaire. Avec la présence militaire russe en Syrie, Israël doit se coordonner avec Moscou pour éviter de frapper les forces russes alors qu'il cible les bases iraniennes de missiles en Syrie et notamment les cargaisons d'armes iraniennes destinées à des groupes adverses. Jonathan Lord est directeur du programme de sécurité Moyen-Orient au Centre pour une nouvelle sécurité américaine.
Their focus on not antagonizing.
Ils se concentrent sur le fait de ne pas contrarier Moscou afin qu'ils puissent continuer à protéger leurs propres frontières contre des armes qui pourraient tomber entre les mains du Hezbollah et d'autres acteurs.
Le président Biden a également salué l'accord négocié par les États-Unis entre Israël et le Liban pour mettre fin à leurs différends sur la frontière maritime, permettant à Beyrouth, à court d'argent, d'explorer des puits de gaz offshore. Jonathan Reynolds est le directeur du département d'études politiques de l'université Bar-Ilan d'Israël.
S'ils n'étaient pas parvenus à cet accord, cela aurait pu déclencher une guerre entre Israël et le Hezbollah. Et étant donné les armes dont dispose désormais le Hezbollah, il y aurait eu un grand nombre de morts parmi les civils en Israël. Et puis, puisque Israël devrait alors arrêter ses tirs de missiles, cela entraînerait presque certainement un grand nombre de morts parmi les civils au Liban.
Pour contrer la menace iranienne, les présidents Biden et Herzog ont également discuté des plans facilités par les États-Unis pour un système régional intégré de défense aérienne entre Israël et ses voisins des États du Golfe.
Le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, candidat potentiel à l'investiture présidentielle républicaine en 2024, a refusé de dire lundi s'il s'engageait à servir un mandat complet de 4 ans s'il était réélu gouverneur. C'était lors d'un débat entre DeSantis et son adversaire démocrate au poste de gouverneur de l'État, Charlie Crist. Les deux hommes ont également évoqué, entre autres, l'avortement, l'immigration et l'obligation pour les étudiants de se faire vacciner. Le récit est de Nani Talani.
S'exprimant lors de ce débat houleux avec son rival démocrate Charlie Crist, DeSantis a éludé la question de son mandat à plusieurs reprises. Agacé, il finit par lâcher.
Eh bien, écoutez, je sais que Charlie est intéressé à parler de 2024 et de Joe Biden, mais je veux juste que les choses soient très très claires. Le seul vieil âne épuisé que je cherche à mettre au pâturage est Charlie Crist.
Charlie Crist, l'adversaire de DeSantis, l'a aussi attaqué sur la loi qu'il a signée en avril, interdisant les avortements après 15 semaines de grossesse, quelles que soient les circonstances.
Et vous enlevez tous ces autres problèmes parce que vous ne voulez pas parler de la suppression du droit d'une femme de choisir. Vous ne voulez jamais en parler et c'est un thème clé de cette élection. Et vous signez un projet de loi qui leur enlèverait leurs droits en cas de viol et d'inceste. C'est inadmissible et pas étonnant que vous ne vouliez pas en parler.
Pour sa défense, Ron DeSantis a indiqué que sa position sur l'interdiction de l'avortement était basée sur son choix de donner à chacun une chance de vivre.
J'aimerais que tout le monde ait une chance. Je sais que Charlie Crist s'y oppose. Même si le bébé est complètement formé, a un rythme cardiaque, peut ressentir de la douleur et peut sucer son pouce. Il soutient également les avortements sélectifs en fonction du sexe qui sont utilisés pour discriminer les petites filles. Il soutient les avortements par démembrement où ils arracheront littéralement le bébé membre par membre. Et il soutient le financement de l'avortement par les contribuables.
Hormis le vaccin anti-COVID-19 et l'avortement, le débat des candidats gouverneurs de l'État a permis d'aborder des questions comme la criminalité, l'éducation, la présidence de Joe Biden et l'immigration. DeSantis est populaire au sein du Parti républicain et s'est heurté à Biden sur plusieurs questions politiques. Crist, ancien gouverneur et membre du Congrès, est à la traîne dans les sondages.
Abdourahman Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, comment faire de la question sécuritaire en Afrique une priorité mondiale? En ouvrant le 8e Forum de Dakar sur la paix et la sécurité, le président sénégalais Macky Sall a déclaré que le terrorisme qui gagne du terrain sur le continent n'est pas qu'une affaire africaine, mais une menace globale, dénonçant ce qu'il appelle l'inertie du Conseil de sécurité dans la lutte contre le terrorisme en Afrique. Comment placer la lutte contre le terrorisme en Afrique au centre de l'agenda international dans un contexte de débat sur la souveraineté des États? Rendez-vous ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et voafrique.com et en rediffusion samedi et dimanche.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Dion à ce micro. À la mise en onde, Michel Joseph. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.